regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je m'en fous de baser. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. De rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.
Une reprise de « Non, je ne regrette rien » par Cássia Eller, la brésilienne. Et oui, pourquoi cette chanson? Pour amorcer notre émission « Les petits tas dans le mou », 333e du nom, 333. Parce que aujourd'hui, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Sainte Péronnelle. Ah, Péronnelle, ça semble plus tellement de nos jours. Mais Péronnelle, c'est pourtant la patronne des repentis. Connaissez-vous l'étymologie de Péronnelle ? Péronnelle, en fait, c'était le premier féminin de Pierre. Comme selon le calendrier évangélique, catholique et romain apostolique, nous sommes la Saint Pierre Canisius, eh bien, Alfred Jarry a pensé que ce serait pas mal de féminiser un peu cette histoire. Et c'est vrai que Pierre, ça a d'abord été Pétronille au féminin, qui a donné Péronnelle. Et si Péronnelle a pris l'acception un petit peu péjorative ensuite, c'est parce qu'il y a une chanson du 14e siècle, du 15e siècle, pardon, qui parle d'une certaine Péronnelle à la campagne, qui fait un petit peu, qui est à la fois bêtasse et après qui joue aussi de ses charmes. Et donc, voici pourquoi on peut traiter parfois, et c'est pas très galant, une femme de Péronnelle. Mais on ne parle pas de cette Péronnelle-ci, on parle de la patronne des repentis. Pourquoi ? Parce que Péronnelle, la première connue du nom, c'était une Auvergnate qui vivait au XIIe siècle. Et son mari, Gibert, participait aux croisades et notamment a été faire quelques massacres en Palestine. Tiens, tiens. Quand il est revenu, il a vraiment regretté tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vu. Et il a proposé à sa femme, d'une part, de se séparer, et de purger leurs péchés communs séparément dans des abbayes différenciées. Voici pourquoi Péronnelle est devenue l'abbesse de Aubeterre dans l'Allier. Aujourd'hui, je suis allé vérifier, le bâtiment, cette abbaye existe toujours, mais c'est un manoir privé. Voilà, avec belle piscine devant et tout. Bien sûr, c'est le sort commun des bâtiments de France et de Navarre. Donc aujourd'hui, je vais vous engager pendant une heure à vous poser cette question, à défaut de repentir, de à quoi ça sert de prendre une décision si c'est pour déjà anticiper le repentir de cette décision que vous avez vous-même prise. Enfin, c'est un problème, une espèce de maladie humaine qu'on trouve très rarement chez les animaux. Rubrique Alpha. Le dernier cri d'un traître. Benoîton se retrouve face à Uria et ne comprend pas ce qu'elle fait là chez Tellier, qu'il est venu voir. Uria n'est pas du tout mal à l'aise. Elle lui signale qu'à cette heure, Tellier est dans son bain, bien tranquille. Mais à ce moment, Benoîton s'aperçoit qu'il y a aussi Mario dans l'appartement. « Nous causions d'Angèle, » dit Mario. En duo comme cela, tandis que Tellier est en train de prendre son bain. Cette réflexion, elle reste juste dans la tête de Benoîton. Il ne la prononce pas à haute voix. En fait, Benoîton est muet dans l'appartement de Tellier. Ses pensées vont trop vite. Il est incapable de prononcer quoi que ce soit. Et alors, on ne salue plus. C'est vrai que tu nous as drôlement quittés la dernière fois. On aurait pu penser... Benoîton voit bien le col défait, les verres au rebord sucré, les yeux perdus d'Uria, l'empressement autour de lui. Il voit bien aussi, pour eux, que le compagnon Chotard n'est pas encore tombé, qu'il est encore tenu illégalement dans une permanence de police. Enfin, c'est ce qu'ils imaginent. On la connaît, la permanence de police. Enfin, que Chotard se trouve là ou ailleurs à 7 minutes. « Je passais, » dit Benoîton. « J'ai un mot urgent pour Tellier. »« Mais il est dans son... » Benoîton marche résolument vers la salle d'eau. Il frappe à la porte. Elle n'est pas fermée. Personne n'allait entrer de toute façon. « Benoîton, en v'là de ces façons !» Il sent le contact froid dans la poche de son veston. Ça lui fait drôle de penser que Chotard ne s'est même pas mis nu, lui, pour se laver la vie. « Mais tu peux attendre 2 minutes, je suis pas un micheton !» Ce sont des moments uniques dans l'histoire d'une vie. Les mailles du sabot, le miroir piqué de traces de rouille, la petite lucarne, l'œil inquiet de Tellier, l'eau par terre, qui s'est mélangé à des multitudes de terre. Par terre, les vêtements. La main qui s'accroche au bord du bain. L'œil inquiet. Benoîton ! Ben quoi ? T'entends ? Il parle un peu fort pour un homme nu, Tellier. Un peu de résonance à cause de l'eau. Un peu d'eau qui gicle à cause du bras qui s'est retenu à l'émail. De l'agitation là-dedans. Le cœur, comme une bouffée jusqu'aux tempes. Une pulsion vers l'arrière de la tête. Tellier, debout, nu, les pieds dans l'eau. Sa bouche qui ne peut pas crier reste ouverte. Je te présente Auguste Mille, un sale papier tombé d'une poche de con. Du con qu'on appelle Potiron en riant. Eh, il a fallu faire sortir la galette pour Potiron. Je la fais. Aurait fait par un potiron, malheureux Tellier. Me fallait cette preuve. Me la fallait. Cette preuve que t'es un lâche, salaud. Longtemps, j'ai voulu fermer ma gueule. Je voulais pas y croire. J'y croyais même pas. Tous. Personne ne pouvait croire que c'était vrai, que ça pouvait être vrai, que ça existait sur la planète. Mais maintenant, un peu de courage, camarade. Crie « Vive la révolution sociale !» Vive Potiron le con! Vive Tellier le Maccabée! J'ai écrit le papier. C'était un éclair. J'ai écrit le papier. Je suis revenu chez le cafetier à Bonneau en courant. J'ai trouvé Potiron à nouveau et j'assortis la monnaie. Vous étiez de l'autre côté, encore à vos affaires. Puis il y avait Carlotta, je crois. Et toi, Tu l'as donné, ce putain de papier. Tu l'as donné. Tout était prévu. Tu l'as donné, rue des Caporniers. J'ai vu le commissaire venir flairer. Il avait le papier. Toi, tu savais pas. Moi, j'ai eu l'idée de donner cette adresse. Tu la connaissais pas, vieux con. Et tout était fait pour que toi seul, tu prennes ce con de papier. Tout était joué avec Potiron le con. Tu l'as donné. Tous, tu nous as donné. J'y crois maintenant. Merci. Ta cervelle va me dire merci tout à l'heure. Quelques secondes, Tellier. Quelques secondes pour crier « Merde au peuple !» Tout nuqueté, tout propre de nous avoir donné. La voix de Benoîton est froide comme le métal de l'arme noire. Sa langue ressemble à la gâchette. C'est l'homme qui tue.
« Oh, Mario ! Ah !»
Ce dernier cri dérisoire. Il se noie d'avance. Il a compris. Pourquoi dans la bouche, en même temps que le haut de Mario, il ne sait pas pourquoi, dans le haut, bouche en cul de poule, comme ça, le coup est parti. Dans le haut, très vite, sans faux départ, à sa pousse le poignet vers l'arrière. Tellier se retourne. Il montre son cul, son dos. On voit l'arrêt. Il n'est pas très poilu. Ses couilles pendent bêtement. Avec une force incroyable, imprévisible, Tellier brise la lucarne. Le cri ne sort toujours pas. Le haut a fondu dans une sorte de « Eh !» bavant, aspirant Tellier vers l'eau maintenant à ses cuisses. Il voulait appeler. Qui s'appelle « Eh !» La lucarne est cassée. Il enfonce son poing sanglant. Sa nuque sanglante, sa bouche sanglante, vidée de trois dents, tout s'enfonce dans l'eau par le flanc. La face est sous l'eau violette. Le sang ressort par l'arrière de la tête. Ce grincement de la peau sur les mailles. Les martinets à travers la lucarne brisée. Une détente. Un repos inimaginable qui traverse tout le corps. Le cœur. Le cœur ralenti. Il sent sous ses vaisseaux comme des mitrailleuses qu'il a vues un jour à l'essai. Lui est vivant. Ça n'est pas un essai. Il remet l'arme dans le veston. Bouche sèche, yeux secs, cœur sec. Ses joues se rejoignent à l'intérieur de la bouche. Il entend le fracas de la porte d'entrée de l'appartement.
Thank you.
Ennio Morricone par Ennio Morricone au piano. Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Ceci pour nous amener à la rubrique Bêta. Comme chaque semaine, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à Galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel absolument bouché, presque de mirlingue la brumeuse, manque encore un peu de brume, et il y a peu de chances de voir s'approcher la navette spéciale de Miss Cosmos, mais du moins peut-être pourrez-vous l'entendre s'approcher des studios de Radio Canu au bas des pentes de la Croix-Rousse. Bonjour, 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 chères auditrices et chers auditeurs de Radio Cadette. Et voilà, on voyait pas grand chose pour météoriter aujourd'hui, d'autant que je suis toute seule. J'étais toute seule à bord de ma navette spéciale, moi, Miss Cosmos, pour vous annoncer que, sur le météorite, il y a toujours un problème, c'est que Vogel les a tés. Voilà. Bon, et ça n'a pas beaucoup changé, malgré vos lumières, vos machins, vos ci, vos ça, vos ceci, vos cela, et votre liberté de pensée et de conscience, vos gueules, les athées. Oh, il y a des fragments sur le météorite où il faut se repentir de ne pas croire à une divinité. Eh oui, vous savez. Nous avons constaté cela depuis la dernière semaine hebdomadaire de notre constellation des Pénates au moyen de notre télescope, que l'athéisme dérange. Au mieux, il intrigue. Et c'est même souvent une cause de rupture. Tu viens d'un fragment, d'une culture. Tu dois correspondre à ses règles. Sinon... Gare à toi, vilain petit canard. La trahison, c'est une chose qui ne se pardonne pas, par chez vous. Quel est donc le rapport entre origine et religion, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette? Qu'est-ce qui justifie de se détacher de la religion familiale? La foi, ça ne se perd pas. N'est-ce pas, moi? C'est difficile à comprendre déjà la foi. Le foi, c'est une. La foi, bon. Alors, quand on perd la foi, par chez vous, on devient quelque chose en. Phobe. En. Phobe. En. Phobe. Et par exemple, un homosexuel, c'est un hétérophobe. En tout cas, que la Terre reste discret. Le météorite a mal à ses dieux et ça le rend méchant. Est-ce qu'il serait utile de définir l'athéisme, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette? Certaines langues ignorent ce mot. Kafir. Mais il s'agit d'hérétique, c'est pas la même chose. Hein? Oui, parce que l'hérétique, c'est le vrai terroriste sur ces fragments. Le droit s'applique au groupe, pas aux individus. Eh oui, c'est singulier. Les règles sont communautaires, là est le hic. athée, messieurs, dames, n'est pas une catégorie. Nulle part il n'en est question dans les livres de droit. À moins d'être hérétique, le sort en est jeté, comme vous dites par chez vous. Kafir. Que font les intellectuels ? En réplique à Mahomet. Ils meurent, pour cause de blasphème. Grave maladie, le blasphème. Mais il y a des réseaux sociaux. Sont-ils d'une bonne protection ? Vous allez finir réfugié. Un athée n'est pas forcément un ex-quelque chose, ni un truc phobe. Mais quand on est envahi de l'extérieur par une idée... Il y a autant d'athées partout sur le météorite, à ce qu'on l'a constaté depuis la dernière semaine hebdomadaire au moyen de notre télescope, de notre constellation des Pénates. Mais ils ne font pas peur partout pareil. Pour 30 fragments du météorite, être athée, c'est un délit. C'est singulier. Votre père vous reniera pour avoir porté, après avoir porté plainte contre vous. Ça, c'est sûr et certain. Dans au moins 30 fragments de votre météorite. C'est marrant. Et ça dure. Et on reconnaît ces pays-là. Par chez vous. Moi, c'est bien simple. Eh ben, on n'a jamais eu besoin, sur la constellation des Pénates, de s'inventer des idoles. Oups. Non, pas besoin, parce qu'on travaille bien ensemble, non, bien, dans la collaboration et tout ça, et dans le partage des biens et de ce que vous appelez les richesses, et on n'a pas besoin d'un être supérieur, mais c'est singulier sur le météorite. C'est une chose que je n'arriverai jamais à comprendre, ce besoin des dieux. Enfin, du coup, on crée des mots comme athée, voilà. Sans vouloir blasphémer. Bon, ben, je vais essayer de faire redémarrer ma navette spéciale. Et si tout se passe bien sur le météorite et qu'on en reste à seulement 30 fragments, où c'est un délit de ne pas croire en une divinité, une idole, eh bien, sans doute, je reviendrai la prochaine semaine hebdomadaire. Comment ça marche, mon truc dit ? Voilà, bon. Alors, ben, la navette spéciale...
على الغفلة ما بقت فيها محنة يا حسرة على الغفلة درت فيها وحلا على الغفلة ما بقت فيها محنة يا حسرة على الغفلة درتو فيها وحلا شغل الغابة صمدو وعلى العرش نامو الرنب والغزالة على الغفلة ما بقت فيها محنة يا حسرة على الغفلة دردو فيها وحلا دور الغابة صمدو وعلى العرش نامو الرنب والغزالة من البلد هجرو ظهرت فكت بالقدم والبلد ما بقت حكام قد وزيد لقدام وما زادت ضاعت الزمان فمتها النار شرار خلت عقلي بحيار هجرت ريحه الخضار فيها محنا يحسره على الغفلة بلدو فيها وحلا جور الغاب قسمته وعلى العرش نامو والرنة والغزالة من البلد هجرو ظهرت فكت بالقدوة ومن البلد ما بقى تحكيم هدي وزيد القدام زادت ضاعت الزمان زمت عالي نغار جرار خلت عقلي فحيار حجرت الأبطال مقدار وزادت شاعة الخبار كتب الأقدام
ولولاد ما بقى تحكير
ظلمت غالي نار شرار
تعقلي في حيار
هجرت البطل مضطر
زادت شاعة الخبر 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 زادت شاعة الخبر
فاتت ليام وزمان هبال عشرة لمحان لها تمان وعليك نزال اه يا الغزال محاول أنجك في البول خادك الهبول شعليك الحال غرك الغيار ولقل ولقاول سلام عليكم السلام سلام عليكم سلام عليكم السلام سلام عليكم قالوا لقوا كتبوا لسطار يا لي ونهار فاتت ليام يا لي وعوام نازوا العوام غير الخيام
C'était le groupe Les Boukakres qui nous interprétait successivement El Goudem et Salam Aleikoum. Oui, bien sûr, ceci, je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Les Petits Tas dans le Mou et que selon le calendrier du Péribu concocté par Alfred Jarry, nous sommes aujourd'hui la Sainte Péronnelle, la patronne des repentis. Et on vous pose la question, question qu'on vous suggère de vous poser jusqu'à ce soir minuit. Pourquoi prendre une décision si pour c'est déjà anticiper le repentir? Bon, c'est une grave question, bien sûr, qui se pose à tout un chacun d'entre nous. Mais enfin, on continue à vous donner quelques pistes de réflexion à ce sujet. Prendre une décision pour déjà, par exemple, je ne crois plus en Dieu. Mais si déjà tu te repens de ne plus croire en Dieu, alors il y a peut-être un petit souci à l'origine de ta décision. Mais nous passons à la rubrique GABA. Un hommage à Prévert, inestimable modèle. Mieux vaut prévenir que guérir. Je voudrais, à l'occasion de cette émission, vous réciter un poème de Prévert qui illustre au mieux ce dicton désuet. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce poème s'appelle « L'avènement d'Hitler ». Le bourgeois pleure des larmes et grince des dents. Il devient de plus en plus méchant. Comme ce grand homme mythologique qui n'était sensible qu'au talon. Le bourgeois n'est sensible qu'au fric, même quand on lui joue du violon. Il tuerait bien tout le monde pour garder sa maison. Mais il ne peut pas tuer lui-même. Il faut qu'on croie qu'il est bon. Alors il cherche un homme, comme Diogène. Alors il trouve un homme, au fond d'un vieux tonneau de peinture. Hitler, Hitler, Hitler. L'homme de paille pour foutre le feu. Le tueur, le provocateur. On présente d'abord le monstre en liberté. On le présente aux ouvriers. C'est un ami, presque un frère, un ancien peintre en bâtiment. Le moindre mal, quoi? C'est moins dangereux qu'un général, un ancien peintre en bâtiment. Le moindre mal. Et maintenant, les quartiers ouvriers sont peints couleur de sang. Prévert, il a rédigé ça le 31 janvier 1933. Autant dire que rien ne s'était passé. Mais à quoi bon se repentir? Prévert aimait les conversations plaisantes, parce que selon lui, la bonne conversation mondaine était une réserve de folie profonde. Oui, ces petites saillies de rien du tout, ces noires malices, ce jeu verbal enragé sous la délicatesse bourgeoise. On dit que Prévert a écrit pour la jeunesse, mais c'est faux. Il est allé plus loin que la jeunesse. Il a retrouvé l'enfance. Vous voyez, l'enfant, avec ses éclats de folie, l'enjouement aussi, la gaieté dans le désespoir et ce mépris majestueux pour les considérations des grandes personnes. L'enfance de Prévert est tenue en perpétuel éveil, hein ? Il vous fourre à un coup de coude au moment où vous vous y attendez le moins. On appelle cela l'ironie ou la sagacité. Homme de mauvaise tête, aussi capricieux que l'enfant qui se fiche de ce qu'on lui présente comme l'esprit de sérieux, que ce soit dans la pensée pure ou dans la poésie elle-même. Vous voulez vous asseoir et l'enfant tire la chaise au dernier instant. Vous voici moins prétentieux, le cul par terre, monsieur le grand homme. Jusqu'à présent, vous étiez trop sombre et pontifiant. Maintenant, vous êtes dans une posture ridicule et tout le monde ne s'en porte que mieux. L'absence de sérieux, Prévert le prouve, peut être l'objet d'une véritable passion. L'expérience ne peut que pousser vers l'avant. Du moins, il n'en faut retenir que ce qui va de l'avant. Je vous engage, à la suite de Prévert, de rejeter tous les conseils du passé qui ne vous tournent pas vers l'avenir. Si vous vous penchez une nouvelle fois sur nos révolutions, sur les hommes qui ont composé la chair palpitante de la révolution, vous constaterez qu'aucune grande entreprise ne leur faisait peur, surtout les décrets qui engageaient loin dans l'avenir. Ils ne vivaient certes pas au jour le jour, du moins au jour le jour, ils constataient qu'il y avait un grand nombre de choses à détruire. En effet, en tout progrès social, comme le disait Maeterlinck, le grand travail et le seul difficile, c'est la destruction du passé. Il ne faut pas se soucier trop tôt de ce que nous mettrons à la place des ruines. La force des choses et de la vie se chargera de reconstruire. Jamais de hâte dans la réédification, de peur de recommencer sur le modèle ancien. Construire ne se fait pas dans la précipitation. Pour le moment, mettons à l'épreuve nos forces destructives. Les 9/10 de nos coups se perdent parmi l'inertie de la masse, comme le choc du plus lourd marteau se disperse dans une grosse pierre et devient pour ainsi dire insensible à la main de l'enfant qui soutient celle-ci, l'enfant sage que Prévert raille de feuillet en feuillet et que nous tâchons de railler à notre tour, d'émission en émission, l'enfant prodigue et fatalement premier de la classe.
Le balayeur au bord d'un fleuve. Le balayeur balaye, il s'ennuie un peu, il regarde le soleil, il est amoureux. Un couple enlacé passe, il le suit des yeux, le couple disparaît. Il s'assoit sur une grosse pierre, mais soudain la musique, l'air du temps, qui était doux et charmant, devient grinçant et menaçant. Apparaît alors l'ange gardien du balayeur, qui d'un très simple geste, lui fait honte de sa paresse. Il conseille de reprendre le labeur. L'ange gardien plante l'index vers le ciel et disparaît. Le balayeur reprend son balai. Une jolie femme arrive et s'accoude au parapet. Regarde le fleuve. Elle est de dos et très belle ainsi. Le balayeur, sans faire de bruit, s'accoude à côté d'elle. Et une main timide et chaleureuse la caresse. Ou plutôt, fait seulement semblant. Mimant le geste de l'homme qui tout à l'heure caressait son ami en marchant. La femme s'en va, sans le voir. Il reste seul avec son balai et soudain constate que l'ange est revenu. Et l'a vu et le blâme d'un regard douloureux et d'un geste de plus en plus affectueux et de plus en plus menaçant. Le menace. Le balayeur reprend son balai et balaye. L'ange gardien disparaît. Une autre femme passe, il s'arrête de balayer, et d'un geste qui en dit long, lui parle de la pluie et du beau temps, et de sa beauté à elle, tout particulièrement. L'ange apparaît, la femme s'enfuit épouvantée. L'ange, une nouvelle fois, fait comprendre au balayeur qu'il est là pour balayer, puis disparaît. Le balayeur reprend son balai. Soudain des cris, des plaintes venant du fleuve, sans doute quelqu'un qui se noie. Sans aucun doute, les plaintes de quelqu'un qui se noie. Le balayeur abandonne son balai, mais soudain hausse ses épaules et, indifférente aux cris venant du fleuve, continue de balayer. L'ange gardien apparaît et le balayeur balaye, balaye, balaye comme il n'avait jamais balayé. Travail exemplaire et soigné. Mélange toujours l'index au ciel, remue des ailes croussées et fait comprendre au balayeur que c'est très beau, bien sûr, de balayer, mais que tout de même, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de se noyer. Et il insiste, le balayeur faisant la sourde oreille. Finalement, le balayeur enlève sa veste, puisqu'il ne peut faire autrement. Et comme ça, un très bon nageur grimpe sur le parapet, exécute un merveilleux saut de l'ange et disparaît. Et l'ange, littéralement aux anges, louange le Seigneur. La musique est une musique indéniablement céleste. Soudain, le balayeur revient, tenant dans ses bras l'être qui l'a sauvé. C'est une fille très belle et dévêtue. L'ange la toise d'un mauvais œil. Le balayeur la couche sur un banc, avec une infinie délicatesse. Et la soigne, la ranime, la caresse. L'ange intervient et donne au balayeur le conseil de rejeter dans le fleuve cette diablesse. La diablesse qui reprend goût à la vie, grâce aux caresses du balayeur, se lève et sourit. Le balayeur sourit aussi. Ils dansent tous deux. L'ange les menace des foudres du ciel. Ils éclatent de rire, s'embrassent et s'en vont en dansant. L'ange gardien essuie une larme et ramasse le balai. Et balaye, 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 inexorablement.
Le balayeur de Jacques Prévert par Jacques Prévert et son ami Henri Crolla à la guitare. Oui, bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, donc, c'est la sainte patronne des repentirs, Madame Péronnelle. Eh bien, vous voyez un petit peu, je pense que le balayeur a moins de repentirs que son ange gardien dans cette petite histoire. Mais enfin, à vous de voir. Tout ça pour nous mener à notre ultime rubrique, la rubrique... Ba-ba-yaka. Celle que les sédentaires appellent « Je reste pour rêver de partir ». J'ai connu une femme qui restait pour rêver de partir. Pour ce qui est de la vie quotidienne, elle se contentait du strict minimum. Elle répétait d'ailleurs qu'elle campait plutôt qu'elle n'habitait quelque part. Quand elle recevait, elle était à coup sûr prise de court. Elle s'activait pour atteindre le magasin avant la fermeture. Chaque mois, elle épargnait une somme précise dont le total serait nécessaire au grand changement qui devait survenir depuis des années. Le malheur était que des impondérables, pucerons suçant la sève, grignotaient à loisir le budget. Le bouton de rose se recroqueville et crève dans l'œuf sans avoir fleuri ni semé. Mais la femme qui restait pour rêver de partir ne doutait pas que le problème de l'argent se surmontait. Si vous ne supportez pas le sort qui vous est fait, vous sautez sur la première occasion d'en finir et on ne vous revoit plus. L'occasion, en l'occurrence, se faisait attendre. Plus le temps passait, plus la femme qui rêvait de partir restait. Plus elle rêvait de partir. Elle avait, d'un coup de tête, tranché son lit en deux. Il prenait trop de place et laissait à penser qu'en fait de partir, cette femme seule guettait l'âme sœur. Et cette âme sœur, pour l'accueillir, il valait mieux ne pas l'envahir. C'est ce que les mauvaises langues ne se seraient pas gênées de colporter si le lit à deux places avait persisté à congeler la deuxième place au cours des mouvements de la nuit et ses courants d'air froid sous les lattes du sommier ne disposaient pas à quitter les draps. La femme qui restait pour rêver de partir habitait au 8e étage de la rue des Peupliers. Sous elle, la ville se déliait comme une algue rouge, sans qu'aucun bruit ne filtre à travers la grande fenêtre aux traces de bouche. Dans sa chambre, le vélo gris, sans roue, s'ennuyait autour de son compteur kilométrique. Tourné vers la ville soumise, il attendait son chauffeur pour s'en aller survoler les toits et ajouter des distances aux envies de départ. Il portait en grosses lettres sur son cadre le mot « podium ». La femme qui restait pour rêver de partir chevauchait son podium comme un cheval de légende. Pourquoi s'entretenait-elle dans la solitude au lieu de pédaler dehors sur un vrai vélo avec des roues? Grâce au clone de vélo, la ville s'enfuyait sous les coups de pédale emportés par ces deux fleuves. Ne restait que l'espace, l'impression d'espace et d'indéfini. Elle avait conscience que partir était un verbe transitif direct et qu'un « quelque part » devait suivre. Or, ce « quelque part » posait problème. Partir, quelque part,
Pourquoi ici plutôt que là? Pourquoi là-bas plutôt qu'ici même? Pourquoi partir, à nouveau se faire une place, avec son lit tronqué, son sac à dos, ses casseroles et son vélo d'intérieur dont le compteur n'avait pas franchi la barre des 1,5 km? Elle avait pédalé comme on baille. Elle se disait que partir, c'était aussi se dépayser, se remettre en question, être accueilli, apporter dans ses bagages les charmes de l'immigré, la nouvelle, être nouvelle, une femme nouvelle. Chaque année, les oiseaux repartaient. Mais qu'avait-il à revenir, à quitter l'Afrique hospitalière pour nos villes surpeuplées? Elle, si elle partait, elle n'aurait pas le courage de revenir. Si elle partait, elle ne reviendrait pas. Alors elle restait, songeant au départ, songeant à une valise vide avec dessus un lieu de destination sur une étiquette, un lieu qui ne serait qu'une direction, un sens, un nom de ville en trompe-l'œil, dissimulant le retour à soi-même sous quelques repères architecturaux et culturels. Elle détestait les guides, ces briseurs d'illusions. Elle détestait mettre une forme sur ce qui n'était qu'une pulsion. La femme qui restait pour rêver de partir souffrait d'intégration. Elle disait aux travailleurs sociaux « L'intégration, c'est la forme moderne de l'intégrisme !» Elle n'aimait pas l'humanisme et les formules toutes faites. Partir, se désintégrer. Pas d'autre solution que ce pléonasme. Et comme ses veines et ses tempes, son cœur et son corps trépidaient du désir de vivre, elle restait dans l'expectative des fois que la mer recouvre Lyon, lui offrant de sauter de son podium dans le monde devenu onde sans le M qui lui était indispensable. M, et qui faisait qu'elle restait pour rêver encore et encore et encore de partie.
De bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai demain. Quand
quand on ira sur les chemins. À bicyclette.
Bien sûr, Yves Montand, la bicyclette, ça tourne, ça tourne, ça tourne, l'heure tourne aussi, et le vélo de notre pauvre femme qui restait pour rêver de partir, tournait à vide comme ça, devant, c'est à 8e étage de la rue des Peupliers, devant cette bonne ville de Lyon, et croyant la survoler, et elle ne faisait que rester chez elle. Mais elle rêvait de partir. C'est le cas de bon nombre d'entre nous. Je vous rappelle que jusque ce soir, puisque c'est la Sainte Péronnelle, premier féminin de Pierre, et qu'aujourd'hui nous sommes la Saint Pierre Cassinius, selon le calendrier apostolique et romain, qu'on ne respecte plus, nous vous engageons à réfléchir à... Quand vous prenez une décision, c'est pas la peine d'anticiper le repentir, déjà. Alors sinon, vous la prenez pas. Hein, mais bon, à considérer jusque ce soir, minuit. Nous allons bientôt conclure cette émission et cette fois exceptionnellement nous ferons un enchaînement avec la nouvelle scène rappeuse de notre bonne ville de Lyon et de son agglomération. Voilà, voilà, ça va enchaîner là d'ici 10 petites minutes et ensuite Intrinsèque nous proposera une rediffusion de 2 heures sur c'est pas les musicalités gaulo-gauloises cul par de tête, mais presque, puisque c'est Georges Brassens cul par-dessus tête que vous entendrez à la suite de nos jeunes rappeurs dynamiques qui vont bientôt prendre ce micro à ma place. À 19h, normalement, il y aura ensuite le journal de Radio Canu, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire. Quant à moi, si tout se passe bien, je vous retrouve à 13h jeudi prochain, 28, oui, et nous serons la Saint-Poivre. Eh bien oui, pourquoi poivre? Parce que selon le calendrier apostolique et romain, nous serons là, c'est la fête de tous les innocents. Eh oui, ça existe. Et il existe une herbe qui s'appelle l'herbe des saints innocents. Oui, et c'est un poivre sauvage que vous pouvez trouver quand il n'y a pas de Roundup dans les fossés de vos campagnes, ici même, aux alentours de Lyon. Et donc, poivre. Eh bien, ce sera le patron des indulgences. Donc, après le repentir, l'indulgence, on est dans la bonne période. Pour cela,